Ben-Hur, chapitre 35. Amer, Ben-Hur prépare la révolte. Au matin du premier jour du septième mois, le Tishri des Hébreux, qui correspond à notre mois d'octobre, Ben-Hur se leva de sa couche dans l'hôtellerie qu'il habitait, mécontent du monde entier. Il avait perdu peu de temps en consultation avec Malouk lors de l'arrivée de celui-ci à Jérusalem, et le brave Israélite avait aussitôt commencé ses recherches en s'adressant hardiment au tribun qui commandait dans la citadelle. Il lui raconta l'histoire des Hurs et s'attacha à lui faire voir l'accident arrivé à Gratien comme dépourvu d'intention criminelle. Il ajouta que le but de son enquête était de s'assurer si l'un ou l'autre des membres de cette malheureuse famille était encore vivant, auquel cas il s'adresserait à César pour lui demander de les remettre en possession de leur propriété et de leurs droits civils. Il ne doutait pas qu'une pétition de ce genre n'aboutît à une enquête, ce que les amis des condamnés n'avaient aucune raison de redouter. En réponse à cela, le tribun lui apprit dans tous ses détails la découverte qu'il avait faite peu de temps auparavant de deux femmes dans une des cellules de la tour et lui fit lire ce qu'il avait écrit sous leur dictée. Il consentit même à lui en laisser prendre copie. Malouk, au sortir de cette entrevue, retourna en toute hâte auprès de Ben-Hur. Cette terrible histoire plongea le jeune homme dans une douleur trop profonde pour s'exprimer par des larmes ou des cris passionnés. Il resta longtemps immobile, le visage contracté, le cœur serré comme dans un étau. De temps en temps, il murmurait dans un accès de désespoir : « Lépreuse ! Combien de temps encore ? Combien de temps, ô Éternel ?» Puis, saisi tout à coup d'un accès de rage, d'un désir fou de vengeance, il éclata en malédictions et en menaces. Enfin, il se leva en disant « Il faut que j'aille les chercher. Elles sont peut-être mournées, distribuant des aumônes, s'informant des deux femmes, offrant une riche récompense à quiconque les ferait découvrir. » De nombreux lépreux, tentés par l'appât du gain, se mirent à parcourir la cité des morts, éparses sur les flancs de la montagne, et plus d'une fois ils arrivèrent devant le tombeau situé non loin du puits et questionnèrent les deux femmes qui l'occupaient. Mais elles gardaient bien leur secret et les investigations des lépreux échouèrent. Enfin, au matin du premier jour du septième mois, Ben-Hur et Malouk apprirent que peu de temps auparavant, deux femmes atteintes de la lèpre avaient été chassées de la ville à coups de pierre par les autorités. La confrontation des dates les amena à la conviction que les victimes ne pouvaient être que la veuve et la fille du prince Hur et les laissa plus perplexes que jamais au sujet de leur sort ultérieur. « Ce n'était pas assez de les avoir rendues lépreuses, » répétait Ben-Hur avec amertume. « Il fallait encore les chasser à coups de pierre de leur cité natale. Ma mère est morte, elle s'en est allée au désert pour y mourir. Tirza aussi est morte, et moi je suis tout seul. Ô Éternel, Dieu de mes pères, combien de temps cette Rome maudite subsistera-t-elle encore ?» Le cœur plein de colère, de désespoir et de désir de vengeance, il entra dans la cour de l'hôtellerie et la trouva pleine de gens arrivés pendant la nuit. Tout en déjeunant, il prêta l'oreille à ce qui se disait autour de lui. Quelques hommes, presque tous jeunes, l'intéressèrent bientôt particulièrement. C'étaient de robustes compagnons dont les allures trahissaient un tempérament actif et que leur dialecte faisait connaître pour des provinciaux. Il y avait dans leur regard, dans leur manière de relever la tête, dans tout leur maintien, une vivacité qu'on ne trouvait pas au même degré chez les représentants des basses classes de Jérusalem et qui leur venait probablement du genre de vie qu'ils menaient dans leurs montagnes et surtout de la saine liberté dont ils jouissaient. Il n'eut pas de peine à découvrir que c'étaient des Galiléens venus pour prendre part à la fête des tabernacles qui commençait ce jour-là. Cette découverte augmenta encore son intérêt pour eux, car c'était en Galilée qu'il espérait trouver le plus d'appui pour l'œuvre qu'il se préparait à entreprendre. Pendant qu'il les observait en songeant à la possibilité de lever une légion de ces simples et vigoureux montagnards et de faire d'eux des soldats capables de se mesurer avec des Romains, un homme parut dans la cour, le visage en feu, les yeux brillants d'excitation. « Que faites-vous ici ? » dit-il aux Galiléens. « Les rabbis et les anciens quittent le temple pour se rendre auprès de Pilate. « Allons en hâte nous joindre à eux. » Ils se groupèrent en un clin d'œil autour de lui. « Auprès de Pilate ? Pourquoi faire ? » ?»« Ils ont découvert une conspiration. Le nouvel aqueduc de Pilate doit être payé avec l'argent du temple. »« Comment ? avec le trésor sacré ? Il se répétait cette question avec des voix indignées. « C'est Corban, l'argent de Dieu, qu'il en touche un cycle, s'il l'ose !»« Venez !» cria le messager. « À l'heure qu'il est, le cortège doit avoir passé le pont. Toute la ville le suit. On pourrait avoir besoin de nous. Hâtons-nous » Tous ensemble, ils rejetèrent leurs robes loin d'eux, puis la tête nue, vêtus seulement de la tunique sans manches qu'ils portaient pour moissonner leurs champs, pour ramer sur le lac, pour garder leurs troupeaux au flanc des collines ou cueillir les grappes mûres dans les vignes, sans souci du soleil, ils bouclèrent leurs ceintures en disant « Nous sommes prêts ». Alors Ben-Hur s'approcha d'eux. « Hommes de Galilée, leur dit-il, je suis un fils de Judas. Voulez-vous m'accepter comme l'un des vôtres ?»« Il nous faudra peut-être combattre, » répondirent-ils. « Soyez sans crainte, je ne serai pas le premier à m'enfuir. » Ils prirent la plaisanterie en bonne part et le messager s'écria « Tu parais vigoureux, viens donc avec nous !» Ben-Hur se dépouilla de ses vêtements inutiles. « Vous pensez donc être obligé de vous battre ?» dit-il en serrant sa ceinture. « Mais contre qui ?»« Contre les gardes ?»« Des légionnaires ?»« À qui d'autre les Romains pourraient-ils se fier ?»« Quelles armes avez-vous ?» Ils se regardèrent en silence. « Nous ferons ce qui sera en notre pouvoir, » continua-t-il. « Mais ne serait-il pas bon que nous nous choisissions un chef ?» Les légionnaires en ont toujours un, ce qui leur permet d'agir avec ordre. Les Galiléens fixèrent sur lui des regards étonnés. Évidemment, ils n'avaient pas songé à cela. « En tous les cas, restons le plus près possible les uns des autres, » reprit-il. « Et maintenant, partons, je suis prêt. » Le caravan sérail où il se trouvait était situé à l'une des extrémités de la ville, et pour rejoindre le cortège, ils avaient un long chemin à faire. Ils s'engagèrent dans des rues méritant à peine ce nom, tant elles étaient étroites et tortueuses. Lorsqu'ils arrivèrent sur le mont de Sion, devant le palais d'Hérode, que les Romains appelaient le prétoire, les anciens et les rabbis étaient déjà entrés avec une grande suite, moins grande pourtant que la foule houleuse restée devant la porte, près de laquelle un centurion et ses hommes montaient la garde. Le soleil dardait en plein ses rayons sur les casques et les boucliers des soldats, mais ils restaient à leur poste, également indifférents à la chaleur du jour et aux déclamations de la populace. Des citoyens allaient et venaient par la porte de bronze grande ouverte. « Que se passe-t-il ? » demanda un des Galiléens à quelqu'un qui sortait du prétoire. « Rien, lui répondit-on. Les rabbis demandent à voir Pilate, qui a refusé de sortir dans la cour pour leur parler. Ils lui ont fait dire qu'il ne s'en irait point, qu'il ne les eût entendus. Ils attendent. « Entrons, » dit tranquillement Ben-Hur. Il comprenait mieux que ses compagnons qu'il ne s'agissait pas seulement d'un différend à régler entre les plaignants et le gouverneur, mais d'une question plus sérieuse, celle de savoir lequel des deux partis ferait triompher sa volonté. Il avait dans la cour qui s'étendait au-delà de la porte une rangée d'arbres sous lesquels on avait placé des bancs. Tous les passants juifs évitaient soigneusement l'ombre projetée par ces arbres sur le pavé, car, si étrange que cela puisse paraître, une ordonnance rabbinique, soi-disant fondée sur la loi, défendait que quoi que ce soit de vert fût planté dans les murs de Jérusalem. On prétendait que Salomon lui-même, désirant avoir un jardin pour son épouse égyptienne, avait été obligé de le placer à l'endroit où se rencontrent les vallées près d'un rogel. On voyait briller entre les troncs des arbres la façade du palais. Ben-Hur et ses compagnons se dirigèrent vers une cour intérieure, à l'ouest de laquelle se trouvaient les appartements du gouverneur. Une multitude en démence l'avait déjà envahi. Tous les visages étaient tournés vers une porte fermée. Un détachement de légionnaires stationnait sous le portique. Les nouveaux venus ne purent parvenir à percer la foule et durent se contenter d'observer de loin ce qui se passait. Ils voyaient devant le portique les turbans élevés des rabbis dont l'impatience se communiquait au peuple massé derrière eux. À chaque instant, on entendait crier « Pilate, si tu es gouverneur, sors vers nous ! Sors vers nous !» Un homme qui s'en allait, rouge de colère, dit en passant près de Ben-Hur « Israël compte pour rien ici, sur cette terre sacrée, nous ne sommes que les chiens des Romains. Ne penses-tu pas qu'il finira par sortir ? Tu le crois ? Ne s'est-il pas refusé par trois fois ? Que vont faire les rabbis ? Bah, ce qu'ils ont fait à Césarée, ils camperont ici jusqu'à ce qu'ils consentent à les entendre. Il n'osera pas toucher au trésor, ne le crois-tu pas ? Demanda un des Galiléens. « Qui peut le savoir ? Un Romain n'a-t-il pas profané le lieu très saint ? Y a-t-il quelque chose de sacré pour eux ?» Une heure passa, et bien que Pilate ne daignât pas leur répondre, les rabbis et la foule ne reculaient pas d'une semelle. Le milieu du jour arriva et une ondée, poussée par le vent d'ouest, passa sur cette multitude sans la calmer. Au contraire, il était facile de s'assurer que l'exaspération allait croissant. Les cris de « Sors vers nous !» étaient maintenant continuels et ils s'y mêlaient des variantes injurieuses. Ben-Hur, pendant tout ce temps, s'occupait à empêcher ses amis galiléens de se disperser. Il pensait que le Romain avait de bonnes raisons pour se dérober aussi longtemps aux instances du peuple et comptait que celui-ci finirait par se livrer à des excès qui lui serviraient d'excuse pour avoir recours à la violence. Ce moment ne se fit plus attendre longtemps. Soudain, on entendit un bruit de coups et immédiatement après, des cris de rage et de douleur s'élevèrent de la foule. Les hommes vénérables, debout en face du portique, se retournèrent épouvantés. Les simples curieux, désireux de s'échapper, se portèrent tout à la fois en avant, d'autres cherchaient à les repousser au contraire vers le fond de la cour, et il s'ensuivit une terrible bagarre. Un millier de voix criaient à la fois, demandant ce qui arrivait, et personne ne pouvant répondre, la panique devint générale. Ben-Hur n'avait pas perdu son sang-froid. « Peux-tu savoir ce qui se passe là-bas » demanda-t-il à un des Galiléens. « Non. Attends, je vais te soulever. » Il saisit cet homme par le milieu du corps et l'éleva d'un vigoureux effort au-dessus des têtes de la foule. « Je vois maintenant, » s'écria le Galiléen. « Il y a là, au milieu, quelques hommes armés de massues avec lesquels ils frappent le peuple. Ils sont vêtus comme des Juifs, mais ce sont des Romains déguisés, aussi vrai que l'Éternel est vivant. L'un d'eux vient de terrasser un rabbi, un vieillard. Il n'épargne personne. » Ben-Hur reposa son fardeau à terre en s'écriant « Homme de Galilée, c'est une ruse de Pilate, mais si vous m'obéissez, nous viendrons à bout de ces hommes et de ces massues. »« Nous t'obéirons, » crièrent-ils tous ensemble. « Retournons sous les arbres, et nous verrons qu'après tout, Hérode a fait une bonne chose en les plantant, bien que ce fût illégal. » Ils coururent vers ces arbres, et en réunissant toutes leurs forces, ils parvinrent à les arracher. Comme ils retournaient ainsi armés vers l'angle du palais, ils rencontrèrent le peuple qui fuyait affolé du côté de la porte, tandis qu'au fond de la cour s'élevaient toujours des cris, des gémissements et des plaintes. « La muraille !» s'écria Ben-Hur. « Montons sur la muraille et laissons passer ce troupeau !» Ils escaladèrent le mur et le suivirent en s'aidant des pieds et des mains jusqu'au moment où ils eurent atteint la cour intérieure. « Maintenant !» dit Ben-Hur, dont l'autorité était tacitement reconnue. « Ne vous séparez pas et suivez-moi !» Il s'élança au milieu des assaillants, suivi de toute sa troupe, et bientôt, Romains et Galiléens en vinrent aux mains. Ils combattaient à armes égales, mais la force surprenante de Ben-Hur, la longueur de ses bras, lui donnait un avantage incontestable, et les encouragements qu'il adressait à ses compagnons servaient en même temps à stimuler leur ardeur et à étonner ses ennemis. Bientôt, il se fit dans les rangs des Romains un mouvement de recul. Un instant plus tard, il lâchait prise et se réfugiait sous le portique. Les Galiléens se préparaient à les suivre quand Ben-Hur les arrêta. « Restons ici, » leur dit-il. « Je vois là-bas le centurion qui s'avance avec ses hommes. Ils ont des épées et des boucliers. Nous ne saurions nous mesurer avec eux. Nous avons fait notre devoir. Retirons-nous pendant que nous le pouvons encore. » Ils obéirent, mais lentement, car il leur fallait fréquemment passer sur les corps de leurs compatriotes étendus sur le sol. Les uns poussaient des cris et des gémissements, les autres imploraient du secours. Plusieurs étaient déjà morts. Il se trouvait aussi des Romains parmi eux, et cela consolait les Galiléens. Le centurion les héla au moment où il passait sous la porte. Ben-Hur se retourna en riant et lui cria dans sa propre langue. « Si nous sommes des chiens d'Israélites, vous êtes des chacals, vous, Romains. Ne crains rien, nous reviendrons. » Les Galiléens l'acclamèrent, et ils continuaient leur chemin. Ils se trouvèrent au-delà de la porte, en face d'une foule si nombreuse que Ben-Hur ne se souvenait pas d'en avoir vu de pareil, pas même dans le cirque d'Antioche. Les terrasses des maisons, les rues, les pentes de la colline leur apparaissaient couvertes d'une multitude innombrable de personnes pleurant, priant, remplissant l'air de leurs imprécations. À peine la petite troupe avait-elle gagné la rue que le centurion que Ben-Hur avait apostrophé le rejoignit. « Arrête, insolent !» lui cria-t-il. « Es-tu juif ou romain ?»« Je suis un fils de Judas. » « Né ici même, que me veux-tu ? Me battre avec toi ? En combat singulier ? Comme tu voudras. »« Ô brave Romain !» s'écria Ben-Hur avec ironie. « Digne fils de Jupiter, ton dieu bâtard, ne vois-tu pas que je suis sans armes ?»« Tu auras les miennes, » répondit le centurion, « et j'emprunterai celles d'un des gardes. » Ceux qui avaient entendu ce colloque firent silence. Mais le bruit s'en était vite répandu bien loin alentour, et Ben-Hur se disait que si, après avoir battu un Romain à Antioche, aux yeux de l'Extrême-Orient, il pouvait en battre un autre à la vue de toute la population de Jérusalem, l'honneur qui en résulterait pour lui serait grandement profitable à la cause du nouveau roi. Il n'hésita pas à répondre au centurion « J'accepte, prête-moi ton épée et ton bouclier. »« Ne veux-tu pas aussi le casque et le plastron ?» demanda le Romain. « Garde-les, il se pourrait qu'ils ne fussent pas faits pour moi. » Le centurion lui remit ses armes et s'en procura d'autres sans retard. Pendant ce temps, les soldats échelonnés près de la porte ne bougeaient pas. Ils se contentaient de regarder ce qui allait se passer, comme s'il se fût agi d'une chose toute simple. Quant aux innombrables juifs, ce ne fut qu'au moment où les deux combattants s'avancèrent l'un vers l'autre qu'ils se demandèrent « Qui donc est celui-ci ?» et personne ne pouvait répondre à cette question. La supériorité des soldats romains consistait en grande partie dans la manière particulière dont ils maniaient leurs courtes épées. Dans les combats, ils ne s'en servaient jamais pour frapper ou tailler, mais ils la poussaient toujours en avant pour transpercer l'ennemi. Généralement, ils visaient au visage. Ben-Hur, qui le savait, s'arrêta au dernier moment pour dire à son adversaire « Je t'ai dit que je suis un fils de Judas, mais je ne t'avais pas dit que j'ai appris à me battre en romain. Défends-toi !» En disant cela, il se trouva face à face avec son antagoniste. Un instant, ils se regardèrent par-dessus le bord de leur bouclier en bronze, puis le Romain se porta en avant en feignant de viser les jambes de son adversaire. Le Juif para le coup en riant. Une botte dirigée vers sa figure suivit immédiatement. Le Juif fit un pas de côté. Si prompt qu'eût été le mouvement du Romain, le sien l'avait été davantage. Rapide comme l'éclair, il glissa son bouclier sous le bras levé de l'ennemi. Encore un mouvement en avant, une conversion vers la gauche, et tout le côté droit du centurion se trouva découvert. L'instant d'après, il s'affaissait lourdement sur le sol, et Ben-Hur restait vainqueur. Un pied posé sur le corps de son ennemi, il éleva son bouclier et salua, selon la coutume des gladiateurs, les soldats qui, debout près de la porte, conservaient leur imperturbable gravité. Le peuple manifesta une joie frénétique en apprenant la victoire de son champion. Partout, sur les toits, aussi loin que se répandait la nouvelle, on agitait des châles, des mouchoirs. Si Ben-Hur y avait consenti, les Galiléens l'auraient porté en triomphe sur leurs épaules. « Ton camarade est mort en soldat, » dit-il en s'adressant à un officier qui venait de paraître sur le lieu du combat. « Je ne le dépouillerai pas, je ne garde que son épée et son bouclier. » Après avoir ainsi parlé, il s'éloigna, suivi des Galiléens. « Frères, » leur dit-il au bout d'un moment, « vous vous êtes bien conduits. Séparons-nous maintenant de peur que l'on ne nous poursuive. Cette nuit, venez me retrouver au caravansérail de Béthanie. J'ai à vous proposer une chose qui est d'un grand intérêt pour Israël. » « Qui es-tu ? » lui demandèrent-ils. « Un fils de Judas, » répondit-il simplement. « Viendrez-vous à Béthanie ? Nous y viendrons. Alors, apportez avec vous cette épée et ce bouclier, afin que je vous reconnaisse. » Il se fraya brusquement un passage au travers de la foule et disparut. Sur les instances de Pilate, le peuple regagna ses demeures, en emportant ses morts et ses blessés, et en menant deuil sur eux. Mais sa douleur était adoucie par la victoire du champion inconnu, dont chacun exaltait la bravoure. Son action héroïque avait ranimé le courage chancelant de la nation et jusque dans le parvis du temple. Durant la fête, on entendait raconter de nouveau la vieille histoire des Maccabées et des centaines de voix murmuraient « Encore un peu de temps, frère, et Israël se relèvera. Attendons patiemment la délivrance de l'Éternel. » Les Galiléens rejoignèrent Ben-Hur au caravansérail de Béthanie où il leur avait donné rendez-vous et d'où il partit avec eux pour se rendre dans leur pays, où il ne tarda pas à devenir un personnage influent. Avant que l'hiver fût entièrement passé, il avait réussi à former 3 légions organisées sur le modèle de celles des Romains. Il aurait pu aisément en doubler le nombre, car il vivait au milieu d'un peuple martial et brave, mais il fallait avant tout procéder avec prudence afin de ne pas éveiller les soupçons de Rome ou d'Hérode Antipas. Il se contentait donc pour le moment de ces 3 légions et s'occupait activement de les exercer en vue de l'action. Pour cela, il amenait les officiers avec lui dans les champs de lave de la Traconite et leur enseignait le maniement des armes, en particulier des javelots et de l'épée, et la manière de faire manœuvrer une légion. Puis il les renvoyait chez eux pour qu'ils enseignassent à leur tour les simples soldats. Ces exercices devinrent bientôt le passe-temps favori du peuple. La tâche qu'il s'était ainsi imposée nécessitait beaucoup de patience, de zèle, de foi et de dévouement, comme il travaillait, et avec quel oubli de lui-même. Et cependant, il aurait échoué sans Simonide qui lui fournissait des armes et de l'argent, et sans Hilderim qui veillait à sa sécurité et lui envoyait constamment des renforts. Surtout, il aurait échoué sans l'esprit militaire des Galiléens. Sous ce nom, l'on comprenait les quatre tribus d'Aser, de Zabulon, d'Issacar et de Nephtali. Les Juifs nés en face du temple méprisaient ses frères du Nord, mais le Talmud lui-même disait « Les Galiléens aiment la gloire et les Juifs l'argent ». Haïssant Rome aussi ardemment qu'ils aimaient leur patrie, ils étaient dans chaque révolte les premiers à gagner le lieu du combat et les derniers à le quitter. Ils se rendaient à Jérusalem pour les grandes fêtes, marchant et campant comme une armée, mais ils n'en étaient pas moins animés de sentiments libéraux et même tolérants envers les païens. Ils étaient fiers des splendides cités élevées par Hérode, surtout de Séporis et de Tibériade, et ils l'avaient loyalement aidé de leurs contributions. Une histoire comme celle du roi, dont Ben-Hur annonçait la prochaine venue, devait tout naturellement exercer un attrait sans pareil sur ce peuple brave, fier, doué d'une imagination puissante. Il aurait suffi pour s'enrôler parmi ses partisans de savoir qu'il briserait le joug de Rome, et lorsque Ben-Hur les assura qu'il dominerait toute la terre et qu'il serait plus grand que César et plus riche que Salomon, ils ne résistèrent plus à son appel et se vouèrent corps et âme à sa cause. Ils s'informèrent cependant de l'autorité sur laquelle il fondait sa croyance. Il leur répondit en citant les prophètes et en leur parlant de Balthazar qui attendait à Antioche l'avènement du roi. Ils se déclarèrent satisfaits, tout cela leur paraissant être la réalisation de cette légende d'un messie à venir qu'ils aimaient depuis si longtemps et qui leur était presque aussi familière que le nom de l'Éternel lui-même. Un soir que Ben-Hur était avec quelques-uns des Galiléens, devant la caserne où ils avaient établi leur quartier dans la Traconite, un arabe à cheval lui remit une lettre. Il l'ouvrit précipitamment et lut, d'un trait, « Jérusalem, le 4 du mois de Nissan. Un prophète vient de paraître que les gens disent être Élie. Il a passé des années au désert. À nos yeux, il est un vrai prophète. Le sujet de ses discours est la venue d'un plus grand que lui. Il l'attend dès maintenant sur la rive orientale du Jourdain. J'ai été le voir et l'entendre. Celui dont il parle est certainement le roi que tu attends. Viens et juge-en par toi-même. Non seulement tout Jérusalem va l'entendre, mais on vient de tant d'autres lieux que le désert où il habite est semblable au mont des Oliviers durant les derniers jours de la Pâque. Malouk. » Le visage de Ben-Hur resplendissait de bonheur. « Ces paroles, ô mes amis, s'écria-t-il, mettent un terme à notre attente. Le héros du roi est apparu et proclame sa venue. » Quand ils eurent ouï le contenu de la lettre, eux aussi se réjouirent des nouvelles qu'elle renfermait. « Préparez-vous maintenant à partir, » continua Ben-Hur, « et quand viendra le matin, tournez vos visages vers vos demeures. Aussitôt que vous serez arrivés dans vos maisons, envoyez dire à tous ceux qui sont sous vos ordres de se tenir prêts à s'assembler dès que je vous aurai fait parvenir l'ordre. Pour moi, je vais m'assurer s'il est vrai que le roi apparaîtra bientôt et je vous informerai de ce que j'aurai vu. » Il rentra dans la caverne et écrivit à Simonide et à Hilderim pour leur communiquer les nouvelles qu'il venait de recevoir et leur annoncer son départ pour Jérusalem. Puis il chargea deux messagers de porter en toute hâte ces deux lettres à leur adresse. Quand les étoiles, d'après lesquelles les voyageurs dirigent leur marche au désert, brillèrent au firmament, il monta sur son cheval et partit avec un guide arabe pour se rendre au Jourdain, en suivant les traces des caravanes qui vont et viennent entre Rabat-Amon et Damas. Le guide était sûr, et Aldébaran léger à la course. Aussi, l'heure de minuit les trouva-t-elle hors des champs de lave et filant à toute vitesse vers le sud.